Elénore quitta lentement les murs de la haute école et descendit l'escalier monumental encore plus lentement. Elle voulait savourer chaque instant de ses visions, qui ne seraient plus bientôt que des souvenirs. Elle s'arrêta à mi-hauteur et embrassa la ville du regard. Au nord, le musée d'été, où les statues élançaient leur immobilité et leurs formidables proportions. À l'est, le jardin des Grâces, fait de douces perspectives, d'ombrages séculaires et de fleurs flottantes. À l'ouest, le quartier des bibliothèques, avec ses ruelles pavées sinueuses, ses lourdes portes de bois étrangement sculptées, ses étals d'ouvrages rares, sa foule d'étudiants nonchalants et insouciants. Elénore aimait la ville haute comme personne peut-être ne l'avait aimée. Elle l'aimait comme on aime une œuvre d'art parfaite, sans considération de morale, avec une adhésion de tous ses sens. Elle ferma les yeux pour respirer le parfum du jasmin qui flottait dans l'air, impalpable, et se souvint des paroles du chancelier. Vous allez faire une chute dont vous ne vous relèverez pas. Une chute dans la fange et dans la laideur, dans la saleté, la brutalité, la vulgarité d'un monde qui ne connaît pas notre ordre. Elle considéra un instant la tentation de changer d'avis, puis se remit en marche. Elle rallongea le chemin qui la menait jusque chez elle, et sa promenade solitaire, lente et presque hypnotique, eut un goût d'adieu. Elle franchit la grille, chemina dans l'allée qui conduisait à la véranda principale de son palais, et attendit quelques minutes encore. Elle connaissait ses parents, et les aimait à sa façon, mais elle ne doutait pas un instant de la condamnation unanime qui allait tomber sur elle au sein de sa famille. L'opprobre d'ailleurs ne tarda pas, en la personne de son père, qui arriva les traits tirés et le regard sec. « Elénore, dit-il, je viens d'avoir un entretien avec le chancelier de la haute école. »« Moi aussi, dit-elle. Je t'interdis de plaisanter, tu m'entends ?»« Oui, père, je vous entends. Me confirmes-tu ce qu'il vient de me dire ?» La silhouette de sa mère, tout aussi sculpturale et impressionnante, se dessina dans l'embrasure d'une porte. Elle avait un visage plus anxieux, plus torturé que son époux, mais aucune bienveillance envers sa fille, aucune compassion n'affleurait dans son expression. Elénore les regarda l'un après l'autre, puis finit par répondre dans un souffle. « Oui. » Les deux parents se regardèrent, et Elénore crut voir sa mère faire un signe de tête accablé à son mari. « As-tu conscience de la honte dans laquelle tu plonges toute la lignée? Ton entêtement coûtera leur carrière à tes frères et sœurs, leur réputation à tes neveux et nièces, et je ne parle pas de nous. Nous serons au mieux la risée de la cité, au pire nous serons mis à l'écart. En as-tu conscience? Avez-vous conscience, vous, de la difficulté du choix que je me résous à faire, de la souffrance qu'il m'en coûtera? Croyez-vous que vous êtes le centre de ma vie et que mes actions sont tout entières dirigées pour ou contre vous? N'avez-vous jamais eu l'humilité d'apercevoir que la vie de vos enfants ne vous appartenait pas? Cela suffit, Elénore. » La voix était celle de son frère aîné, Joris, qui avait accouru aux éclats de voix. Le père se tenait immobile et rassembla son être pour donner à sa voix le maximum d'impact. Elénore le regardait, consternée. Allait-il vraiment essayer d'user de son verbe infirme, lui infliger le spectacle affligeant de sa terne petite pierre aux lueurs tremblantes? Elénore, je t'interdis de choisir l'apostasie, je te somme de choisir une guilde. Elle éclata de rire, et sentit que la frontière entre la colère et la haine, entre eux, avait été franchie. Vaniteux que vous êtes! Le chancelier a échoué à me convaincre, et vous voulez user du verbe avec moi? Mais, père, depuis presque 10 ans, mon verbe surpasse le vôtre, et si, adolescente, je me suis toujours pliée à vos injonctions, c'était par pure hypocrisie, pour vous éviter l'humiliation d'être dominée par votre propre fille. « Elénore !» s'exclama sa mère. « Quoi ? Y a-t-il encore quelqu'un ici pour douter que je pourrais, en l'espace de quelques minutes, vous transformer en agneau bêlant ? Vous pleureriez de compassion et me caresseriez à vous en abîmer les mains. Je pourrais même vous convaincre de désobéir, de me cacher. Aucun d'entre vous n'est de taille à lutter contre moi. »« Puisque tu es si forte, » dit son frère ironiquement, « pourquoi ne le fais-tu pas ? Ne me mets pas au défi, Joris. La patience n'a jamais été ma qualité première. N'as-tu pas encore compris ? Que je choisis l'exil plutôt que la servitude, qu'il n'aurait aucun sens pour moi de vous priver de votre liberté, puisque la liberté est tout ce en quoi je crois. Quitte le palais, Elénore, dit la mère, et ne reviens jamais. Je vais prendre mes affaires, dit Elénore d'une voix soudain plus calme. Personne ne chercha à s'y opposer. Elle contourna la masse inerte de son père, qui regardait droit devant lui. Joris la suivit des yeux furieux, et la mère, dès qu'elle fut partie, s'assit. Aucun d'entre eux ne bougea ni ne parla, jusqu'à ce qu'elle eût quitté la demeure. C'était comme si le monde était suspendu, horriblement contracté, dans l'attente d'un soulagement. Lorsqu'elle fut sortie du champ de vision possible de sa famille, Eleanor s'arrêta. Les dernières minutes s'étaient écoulées dans la colère et le défi. Maintenant seulement la douleur revenait à elle, comme le sang irrigue à nouveau un membre garrotté. Il n'avait pas eu un seul mot de tendresse, pas un seul. Des larmes enfantines lui vinrent, qu'elle laissa couler un bref instant. Puis elle se ressaisit et fit le calme en elle. L'apitoiement sur soi-même est la marque des esclaves et des aveugles. Les voyants regardent leur propre souffrance du dessus. Elle n'est qu'une minuscule griffure à la surface du monde. Le Verbe, comme toujours, l'apaisa presque instantanément. Elle se disait parfois qu'elle en abusait, pour elle-même, comme d'une drogue qui lui permettait de supporter ce qu'elle n'aurait pas supporté naturellement. Mais il n'était plus temps de se poser des questions de cet ordre. Elle utilisa l'esprit pour alléger la charge du sac qu'elle avait fixé sur son dos. Quelques vêtements, quelques bijoux précieux, quelques livres. Il lui aurait fallu, hélas, 1000 sacs comme celui-ci, pour emporter dans son exil tout ce dont elle ne pouvait pas se passer. Ses pas, plus rapides que tout à l'heure, l'amenèrent quelques rues plus bas, jusqu'aux appartements de son amie Stelle. Celui-ci était légèrement plus âgé qu'elle et s'était consacré sans grande conviction à la Guilde de la Culture 2 ans plus tôt. C'était sans conteste la personne à laquelle elle s'était le plus confiée avant de prendre sa décision. Il était amoureux d'elle, sans aucun doute possible, lui ne la rejetterait pas. Elle admira comme toujours le marteau d'argent en forme de salamandre sur la porte sculptée, puis y frappa. Stelle lui ouvrit presque aussitôt. Elle ne dit pas un mot et le laissa observer sa mine et son sac. Il était en tenue de soir, vêtu d'une longue tunique de soie et d'un pantalon léger. Ses cheveux étaient tressés et attachés sans ornement superflu, et son visage presque glabre, si fin qu'il en était presque féminin, portait la marque d'une longue inquiétude. « Entre !» fit-il en regardant à droite et à gauche. Elle le suivit et déposa son sac dans l'entrée. « J'ai été convoquée chez le chancelier cet après-midi, » dit-elle. « Il a essayé de me convaincre. » Stelle ne put réprimer un sourire. « Tu as réussi ? Comme il devait enrager !» Eleanor sourit à son tour. « C'est vrai, je n'y ai pas pensé jusque-là, mais j'ai malgré tout accompli un exploit. »« Un triste exploit, » dit-il, soudain rembruni. « Oui, un triste exploit. » Ils se regardèrent, embarrassés, et Stelle la prit par le bras pour l'emmener dans son patio. Elle avait toujours aimé converser avec lui, dans ce lieu particulier où l'odeur des fleurs semblait tomber des étoiles. Stelle s'assit sur un banc de pierre où traînait un luth et plaqua quelques accords tristes avant de s'exprimer. « Je ne veux pas que tu t'en ailles, » murmura-t-il. Eleanor regretta presque d'être venue se réfugier ici. Dans cet enclos trop tendre, il serait encore plus difficile de partir. « Tu as toujours su que je m'en irais, » dit-elle doucement. « Tu as toujours su, même si tu as espéré le contraire, que le Verbe du chancelier resterait sans effet sur moi. C'est ainsi, Stelle. Je suis ce que tu aimes le plus au monde, et je te quitte. Et moi, je dois quitter cette ville, sans laquelle je serais sourde et aveugle. » J'ai espéré que tu resterais pour moi. Je ne reste même pas pour moi, Stelle. Je ne sais même pas si j'y survivrai. Il plaqua quelques accords moins tristes et lui sourit. Je vais arrêter de me plaindre, Eleanor. Que puis-je faire pour toi ? Elle lui rendit son sourire, éprouvant à cet instant une infinie gratitude. Peux-tu me loger jusqu'à la cérémonie ? Bien sûr. Quand doit-elle avoir lieu ? Selon le livre des lois, au 3e matin. Veux-tu que je t'y accompagne ? « Non, je te remercie. Je ne tiens pas à ce que tu me vois défigurée et peut-être prise de doute. » Il toucha sa joue doucement. Elle se demanda si aucun homme la toucherait jamais avec une telle délicatesse. « Ce « A » ne te défigurera pas. Il sera le premier signe du livre de ta vie. » Cette parole restera dans ma mémoire lorsque le fer approchera de ma chair. « Veux-tu partager ma chambre, Eleanor, ce soir et les 2 autres soirs ?»« Non, » dit-elle très doucement. Je ne veux pas que tu portes mon deuil. Vas-tu rester en ville basse ? Peut-être, je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle est la vie des apostats au dehors. Stelle, je veux te demander un service, un immense service, quelque chose qui te fera prendre des risques. Je voudrais que tu me permettes d'entrer clandestinement dans la haute ville, parfois, en plein cœur de la nuit. Je voudrais pouvoir me dire que tout cela, je ne le vois pas pour la dernière fois. Stelle n'hésita pas. Il accepta cela et toutes les conditions qu'elle lui imposa. Il ne chercha pas à la retenir, ni à partager son lit. Il s'occupa d'elle pendant ces 3 jours comme l'aurait fait un père. Il lava et tressa ses cheveux. Il alla avec elle dans tous les lieux qu'elle voulut revoir, acheta pour elle tous les objets qu'elle désirait, la protégea des regards d'effroi et de reproches que les passants lui adressaient. Par moments, Il se demandait à quoi servait ce rituel barbare. Pourquoi apposer cette lettre de blessure sur sa joue, lorsque la haute ville tout entière semblait déjà connaître son destin? Lorsque le troisième matin arriva cependant, il se sentit défaillir au moment de la quitter. Elle semblait petite et si jeune ce matin. « D'une enfant, je n'ai que le visage, lui dit-elle, comme si elle devinait ses pensées. Je sais. » Stell sortit de sa tunique un large anneau au motif géométrique, dans lequel Elénor reconnut immédiatement un anneau de lien. « Je l'ai fait faire pour toi, Elénor. Il porte mon empreinte spirituelle. Il te permettra de me contacter par l'esprit si tu as besoin de moi. » Elénor enfila l'anneau. Elle ne savait que dire. C'était un geste de rare confiance que de laisser à quelqu'un son empreinte spirituelle. Nombre de hauts citoyens ne la livraient qu'à leur conjoint, car cette empreinte représentait une sorte d'accès à leur esprit et les rendait, en même temps qu'accessibles, vulnérables. « Je n'ai pas un tel gage à te donner, Stell. Je suis confuse. » « Tu n'en as pas besoin. Ne dit-on pas qu'il est possible de contacter par l'esprit les gens que l'on connaît bien, et encore plus ceux que l'on aime ?»« Sans anneau, je n'y suis jamais parvenue, dit-elle. » Stell balaya l'air de sa main, d'un geste qui lui était familier. « Je te donne rendez-vous dans une semaine, près du canal frontière, dit-elle. Y seras-tu ? J'y serai. Alors, embrasse cette joue, avant que cela me fasse trop mal, dit-elle en souriant. » Il posa ses lèvres sur sa joue, longuement. « Était-ce un baiser anesthésiant ? » demanda-t-elle avec une gaieté forcée. « Je sais que tu ne sentiras pas la douleur, que tu seras plongée dans le Verbe et qu'il te protégera. »« Oui, dit-elle, tout en pensant qu'elle n'en était pas si sûre. « Dans une semaine, alors ?»« Dans une semaine, répondit-elle, je t'attendrai depuis le matin. » Et brutalement, sans prévenir, elle partit. Il resta les bras ballants, incrédule, pendant quelques instants, puis il s'enferma chez lui, et ne consentit à voir personne pendant toute la semaine. Tous les hauts citoyens qui formaient l'assemblée portaient un très vif intérêt à la cérémonie qui se préparait, mais aucun, sans doute, ne ressentait des émotions aussi mélangées qu'Emeric. Sa haute taille lui permettait de voir très clairement la mise en scène, les quatre représentants de la Guilde de la Justice disposés en arc de cercle, le chancelier de la haute école, sévère, faisant face à l'accusé, le bas citoyen, au corps brûlé par le soleil, intimidé et solennel, qui officierait avec le fer qui rougeoyait sur le brasero, l'accusé enfin, libre de ses mouvements, assise sur un siège inconfortable. Emeric était assez haut placé dans la guilde de la médecine, et un réflexe professionnel le révoltait à l'idée qu'on allait infliger une brûlure sur une chair jeune et saine. Il éprouvait une certaine compassion, et une certaine admiration pour la jeune fille qui bravait délibérément l'ordre de la cité, et beaucoup de regrets de ne l'avoir pas connue plus tôt, de ne pas avoir eu le temps d'intervenir auprès d'elle. Il s'inquiétait également de ce qu'elle ferait une fois bannie, et son esprit cherchait mille moyens de la contacter par la suite. Mais le sentiment qui dominait les autres était probablement la colère d'un citoyen devant assister muettement à l'exécution d'une justice injuste, la colère d'un homme libre face à une foule endoctrinée dont il percevait les sentiments grégaires, la colère d'un vieux militant à l'encontre d'une jeune écervelée qui se croyait la seule à penser par elle-même, la colère contre les apostats en général qui faisaient toujours passer la gloriole personnelle avant le service de la cause. Leur rébellion spectaculaire et stérile avait toujours eu le don de l'exaspérer, lui, le vieux soldat de l'ombre qui s'armait de patience, qui agissait en silence et qui n'espérait pas de reconnaissance. Sur l'estrade, le ministre de la Justice s'éclaircit la gorge, et la foule disciplinée cessa immédiatement ses murmures. Emeric remarqua qu'il n'y avait pas tant de monde, les hauts citoyens réprouvaient en général le voyeurisme, et, malgré la rareté de l'événement, beaucoup avaient préféré ne pas s'abaisser à en être témoins. En tout cas, pas un membre de la famille d'Elénor n'était présent. Dans l'esprit de l'antique cité d'Albâtre, la justice sera rendue sans complaisance et sans cruauté, car nul ne prend plaisir à la souffrance de la chair et à l'exclusion de la personne, et nul ne faiblit devant les devoirs parfois pénibles que nous impose le maintien de notre ordre. Notre ordre est le garant de notre humanité. Dans le livre des lois, je lis « Tout étudiant au terme de ses études à la haute école choisira une guilde pour y effectuer sa carrière. Ce choix sera mûrement réfléchi, car nul ne passera d'une guilde à une autre, et la loyauté de la personne à sa guilde ne devra se dissoudre que dans la mort. » Dans le livre des lois, je lis « Tout haut citoyen refusant de se conformer à nos lois ou traditions, ou ayant déjà commis une infraction, se soumettra au verbe de ses aînés pour en recevoir la sagesse. tout haut citoyen refusant de se soumettre au verbe de ses aînés, ou y restant hermétique, sera banni de la haute ville, et le signe des apostats sera gravé sur sa joue gauche. Dans le livre des lois, je lis, tout haut citoyen ayant commerce avec un apostat, qu'il soit de son sang ou non, en haute ville comme en ville basse, ou à l'extérieur, sera considéré en infraction. Emmerich n'écouta le discours protocolaire que d'une oreille distraite. Ses yeux étaient fixés sur Eleanor. Elle se tenait immobile, impassible, et regardait ses accusateurs. Emmerich admira son sang-froid, qui ne venait que de sa volonté, car sa pierre frontale n'émettait aucune lueur. Le second ministre s'adressa ensuite au chancelier. « Chancelier, l'accusée a-t-elle accepté de choisir une guilde au terme de ses études à la haute école ?»« Non !» dit le chancelier d'une voix claire. « Elle a sollicité une dérogation d'une année supplémentaire de réflexion que j'ai eu la faiblesse de lui accorder. »« Au terme de cette année, l'accusée a-t-elle accepté de servir une guilde ?»« Non, elle a refusé. »« L'accusée a-t-elle accepté de se soumettre à votre verbe ?»« Oui !» Un murmure d'admiration et d'effroi parcourut l'assemblée. Le chancelier avait la réputation de pouvoir tout juguler par le verbe. Il était presque inconcevable qu'une simple étudiante pût s'y soustraire. Emmerich remarqua un fin sourire orgueilleux, très fugitif, sur les lèvres d'Eleanor. « Petite sotte, songea-t-il, ta victoire n'est qu'une défaite. » Eleanor leva les yeux vers lui à cet instant, comme si elle avait pu l'entendre. Il en fut troublé, mais ne manifesta aucune connivence particulière. « Chancelier, votre verbe a-t-il pu soumettre sa volonté de trahir nos traditions ?»« Non, mon verbe a échoué. » Le murmure de la foule était maintenant effrayé. Emmerich sentait leur malaise, leur répulsion, leur inquiétude. Cela ne serait tranquille que lorsque cette jeune fille serait définitivement hors les murs. Le troisième ministre s'adressa ensuite à Eleanor. « Accusé, dans l'esprit de l'antique cité d'Albâtre, nous t'accordons une dernière chance de te soumettre. » « Acceptes-tu de choisir une guilde pour y effectuer ta carrière jusqu'à ton dernier jour ?» Il y eut un silence assez long, où tout le monde, Emmerich compris, se mit à croire que cette jeune fille de haute noblesse, qui portait sur ses traits et dans son maintien tant de qualités de la haute ville, allait renoncer à ses enfantillages et rentrer dans le rang. Je ne suis pas née pour la servitude. « Mais pour la liberté. »« Accusé, gronda le troisième ministre. Réponds par oui ou par non. Acceptes-tu de choisir une guilde pour y effectuer ta carrière jusqu'à ton dernier jour ?»« Non. » Le quatrième ministre s'avança alors et s'adressa au bas citoyen visiblement mal à l'aise. « Homme, dit-il en langue vulgaire, marque la joue gauche de cette femme. » Le bas citoyen bredouilla quelques paroles hésitantes et inaudibles. « Non, répartit le ministre, il n'est pas nécessaire de l'attacher. » Apprend que les natifs de la haute ville n'ont pas besoin d'aide pour supporter la souffrance. » Le bas citoyen haussa les épaules et prit le fer sur le brasero. La pierre frontale d'Eleanor se mit à briller de plus en plus fort à mesure qu'il approchait le fer de sa joue. « Ce A ne me défigurera pas, il sera le premier signe du livre de ma vie. Ce A ne me défigurera pas, il sera le premier signe du livre de ma vie. » Elle se tint parfaitement droite et parfaitement immobile, se préparant mentalement au contact brûlant. La douleur fut très brutale et très vive, et Emmerich remarqua que ses lèvres étaient devenues blanches, sans doute à force de les mordre. Le bas citoyen retira le fer au bout de quelques secondes, et le souffle de l'air sur la plaie lui fit encore plus mal. Elle resta assise quelques instants, sa pierre frontale brillant avec une étrange intensité. Elle utilisa l'esprit pour accélérer la cicatrisation de sa brûlure et pour rétablir le calme dans son flux sanguin et nerveux. Le quatrième ministre semblait attendre qu'elle fût en état de marcher. « Homme, dit-il à nouveau en langue vulgaire, amène cette femme à la porte de la haute ville. Ni toi ni elle n'avez plus rien à faire parmi nous. » L'homme acquiesça, manifestement soulagé que la cérémonie toucha à sa fin. Il prit Eleanor par le bras et avança d'un pas mal assuré. Eleanor dégagea son bras avec agacement et le dépassa sur le chemin. Elle marcha en tête, sans un regard pour les visages qui se repaissaient de son image défigurée. Elle ne se retourna pas une fois en traversant le marbre désert qui bordait le canal frontière. Elle prit place dans la barge qui l'attendait, sous l'œil curieux et presque amusé des gardes pourpres. Emmerich la regarda partir, alors que la foule soulagée se dispersait et recommençait à songer au cours normal de la matinée. Tout au fond de lui, Ne l'enviait-il pas, elle qui laissait toute cette lâcheté derrière elle? Il fallait qu'ils se reprennent, qu'il aille rendre compte de tout cela à Aumont, qu'ils trouvent ensemble un moyen de ne pas la perdre tout à fait. Une telle maîtrise de l'esprit ne pouvait, ne devait pas être ainsi gaspillée. Quelques minutes plus tard, Aymeric se trouvait dans l'antichambre d'Aumont. Son trajet à travers la ville, en cette matinée de printemps, avait largement contribué à lui faire recouvrer son calme. Il avait arpenté le pavé fraîchement lavé, posé les yeux sur les façades ciselées, humé les fragrances délicates des fleurs aromatiques que portaient les plantes grimpantes, il avait salué quelques silhouettes gracieuses et discrètes. En somme, il s'était laissé aller à oublier un peu les frustrations de son combat, pour jouir, sans arrière-pensée, de ce qui le rattachait presque malgré lui à la haute ville. Comment pouvait-on décider de s'exclure de tout ça? Alors qu'il lui avait semblé quelques minutes auparavant qu'Elénore avait de la chance de pouvoir sortir de cette enceinte, il lui semblait à présent qu'elle devait être folle. La haute ville avait certes de lourds péchés à expier, mais rien ne justifiait qu'on la désertât ou qu'on la brûlât. Il fallait agir en son sein, pour une réforme profonde mais sans violence. Les apostats menaçaient de détruire ce qui devait seulement être redressé. Sa certitude d'avoir choisi le bon camp se raffermit en lui au fur et à mesure de sa marche. Aumont partagerait certainement ce point de vue, mais il était pour le moment occupé, dans sa cour intérieure, à s'exercer au setan. Aymeric s'installa confortablement sur un divan, tout en observant les évolutions de son ami à travers les persiennes. L'antichambre était claire et spacieuse, et un iguane domestique, aux profondes teintes vertes et bleues, somnolait sur la mosaïque chauffée par un rayon de soleil. Aymeric ne résista pas à l'envie de le prendre sur le divan, et se mit à caresser rêveusement sa douce peau écailleuse, qui rappelait le contact d'une peau humaine. Il espérait que l'exercice de ce temps ne durerait pas trop longtemps. En général, cet art martial requérait tant de concentration qu'il épuisait rapidement son adepte. Aumont, les cheveux tirés, le torse et les pieds nus, recommençaient inlassablement le parcours qu'il s'était imposé, qu'Aymeric jugea passablement difficile, tout en décochant des ondes de choc de plus en plus précises sur des cibles souples. Aymeric contempla l'exercice pendant la moitié d'une heure, fasciné. Le setan était vraiment une discipline royale, à la fois rigoureuse, esthétique et terriblement efficace. Il était rare que les membres de la Guilde du Savoir, comme Aumont, s'y adonnassent. Les meilleurs guerriers setan étaient formés par la Guilde du Pouvoir et celle de l'Ordre. Aymeric se demanda si Aumont craignait un jour de devoir se défendre contre eux. Aumont s'arrêta bientôt, pâle et en sueur, et adressa un grand sourire à Aymeric dès qu'il le remarqua. « Cela fait longtemps ? » demanda-t-il, essoufflé. « Je ne suis pas pressé, » répondit Aymeric. « J'admirais votre pratique tout en caressant votre iguane. » Aumont s'essuya le corps et invita son compagnon à le rejoindre. Il était visiblement encore absorbé par le setan et jetait des coups d'œil fréquents au parcours. « Il me semble que vous avez progressé, » fit Aymeric poliment. « Oui, » confirma Aumont, « notablement. » « C'est vraiment une expérience étrange, savez-vous? Avez-vous déjà essayé ?»« Non, pardieu, non !» dit Aymeric en riant. « Je suis bien trop vieux pour commencer un tel apprentissage !» Aumont frissonna, comme cela arrivait souvent après une utilisation soutenue de l'esprit. On dit que le setan révèle la part spirituelle du corps et la part corporelle de l'esprit, dit-il d'un air songeur. Et j'ai beau en connaître les mécanismes, je ne peux qu'être surpris et émerveillé par cette expérience. Aymeric sourit sans rebondir, un peu agacé par cette passion qu'il ne partageait pas. « Mais je suis terriblement impoli, » dit Aumont presque aussitôt. « Vous n'êtes pas venu pour m'entendre philosopher sur le setan. Venez dans mon bureau, nous y serons plus à l'aise. » Aymeric le suivit et nota avec un certain plaisir que l'iguane les suivait aussi, ou plutôt les accompagnait, car ils se déplaçaient par brusques contrastes de vitesse et d'immobilité qui rendaient impossible de rester à sa hauteur. Une fois dans le bureau, Aymeric se lança. « Je viens d'assister à la cérémonie d'apostasie, » dit-il. « Comment s'est-elle conduite ?»« Elle a fait preuve d'une grande maîtrise, d'elle-même et de l'esprit. » Aumont hocha la tête. « Je m'en doutais, j'ai eu l'occasion de la croiser quelquefois. »« Je regrette vivement qu'elle n'ait eu aucune chance de connaître notre action. Elle aurait été sans doute d'une aide précieuse. » Aumont, encore frissonnant, acquiesça. « Je sais que vous tenez les apostats pour des têtes brûlées, » dit-il, « mais le temps viendra peut-être où nous devrons nous allier à eux, et Elénore nous sera précieuse à ce moment-là. » « Qu'en pense Mével ? » ?»« Elle dit que l'un de ses jeunes condisciples de la culture, un dénommé Stel, s'est affiché avec elle pendant les 3 derniers jours. Elle y voit une coïncidence providentielle et m'a promis de sonder le jeune homme. S'il est sympathisant, comme nous pouvons légitimement le supposer, il nous aidera peut-être à la contacter, elle et les autres apostats. Emmerich avait le visage fermé et pensif. Aumont se laissa glisser dans un fauteuil profond et laissa sa main errer machinalement sur les ouvrages et les instruments éparpillés sur la table basse. Il observait son compagnon, grand, maigre, déjà vieillissant, le visage sévère. Ce n'est pas à cela qu'il voulait ressembler dans quelques années. « Sinon, quelles nouvelles ?» demanda Emmerich. « Les guildes du pouvoir et du commerce cherchent à s'approprier les surplus de bénéfices de la cité. La guilde de l'ordre a réprimé une jacquerie dans les manufactures portuaires. La routine ?»« Je n'ai rien glané non plus, » dit Emmerich, sombre. Aumont se voulut réconfortant. « Allons, nous ne pouvons rien faire pour le moment. Qu'il nous suffise de nous tenir prêts. »« Prêts à quoi ?» soupira Emmerich. À saisir l'opportunité qui passera. N'oubliez pas la devise de notre société. L'érosion est la fille du temps.